Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, j'espère que vous allez bien. Un lundi 2 mai, plutôt frisquet. J'espère que vous arrivez tout de même à passer au travers. Je le souhaite, Marianne Paquette au micro, qui vous accompagne avec grand plaisir au cours des 30 prochaines minutes. L'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. En deuxième partie d'émission, je vous parle de dégénérescence maculaire. C'est la première cause de perte de vision majeure chez les Nord-Américains de 60 ans et plus. C'est une maladie oculaire qui est encore impossible de guérir, peut-être en partie parce que l'on ne connaît pas les causes de la dégénérescence maculaire, donc difficile de cerner des traitements complètement réversibles. En contrepartie, il y a des façons, des moyens qui existent qui permettent de contrôler la dégénérescence maculaire. Certains sont même très prometteurs. On parle de greffes de cellules souches, mais aussi onéreux, parfois des médicaments difficilement accessibles. C'est le mois de la santé visuelle aussi, mais donc on parlera de prévention en deuxième partie d'émission avec le directeur général de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire, André Lavoie. Aussi, bien, je pense que c'est indéniable, on l'observe assez aisément dans notre société, les gens vivent en général plus longtemps. D'ailleurs, dans une étude publiée par le journal médical de Lancet à l'été 2015, on apprenait que le Canada arrivait en 10e place au chapitre de l'espérance de vie globale. Et retenez ça, espérance de vie globale. L'espérance de vie pour les hommes, 79,4, chez les femmes, 83,4 ans. Et si on comparait les derniers chiffres publiés en 90, c'était des augmentations notables, plus de 5 ans pour les hommes, près de 3 ans pour les femmes. Mais la question que je vous pose aujourd'hui, si il est évident que l'on vit plus vieux, est-ce que l'on vit nécessairement plus en santé? Et là, cette étude abordait aussi cette question-là en révélant qu'une espérance de vie en santé, ben, les chiffres étaient un petit peu moins, je dirais, reluisants. Là. Chez les hommes, on parlait de 69 ans à peu près, et chez les femmes, 71 ans. Donc, comment vivre vieux? Oui, d'une part, plus vieux, mais en santé. Et peut-être qu'une partie de la réponse serait dans notre alimentation. J'en parle à l'instant avec Louise Thibault. Elle est docteure en nutrition et professeure agrégée à l'École de diététique et de nutrition humaine de l'Université McGill, également auteure d'un tout nouveau bouquin publié aux éditions de l'Homme, « Manger pour garder un cerveau jeune ». Louise Thibault, bonjour.
Oui, bonjour Marianne.
Eh bien, je pense qu'on peut l'affirmer. Votre livre dégage ça beaucoup, je trouve. C'est que vieillir, c'est probablement ce qu'il y a de plus démocratique, hein, parce qu'on y passe tous. Personne n'est épargné par le fait de vieillir. Et ce que l'on apprend dans votre livre, c'est que dès 20 ans, notre cerveau commence à vieillir. Donc, dès 20 ans, on devrait s'intéresser aux questions de vieillissement.
Absolument. En fait, dès 20 ans, il y a des signes de vieillissement dans notre cerveau. Mais le vieillissement, ça commence bien avant. En fait, je ne veux pas trop vous décourager, mais à partir de la conception, il y a des cellules qui apparaissent et ces cellules-là vont être responsables des altérations qui nous préparent à vieillir. Alors, c'est tout au long de notre vie, finalement, qu'on vieillit.
Donc, on devrait, ou du moins on pourrait s'intéresser à la qualité de notre alimentation assez tôt. Et il n'est jamais trop tard, hein? C'est-à-dire que même si on a 75 ans, on peut commencer à s'intéresser à ce que l'on met dans notre assiette.
Absolument. En fait, quand les gens me demandent quand est-ce que je devrais commencer, je dis à tous et à toutes maintenant. Oui. Dès que vous avez en main mon livre électronique ou papier, regardez ce dont vous avez besoin pour garder un cerveau jeune, que vous ayez 20 ans ou même avant, 30 ans, 50 ans, 80 ans, 90 ans, il n'est jamais trop tard.
Oui. Souvent, lorsque l'on parle du processus de vieillissement, ce sont les signes extérieurs qui sont très visibles, les cheveux blancs, les rides, quelques douleurs aux genoux. Et ça, on s'y intéresse. Hein, et de plus en plus, on trouve des moyens. Là, disons que l'industrie de l'esthétisme nous en trouve aussi également. Toutefois, on s'intéresse peut-être moins à ce qui est non visible, ce qui se passe à l'intérieur. Comment ce processus-là influence notre cerveau, nos organes, Louise?
Bien, en fait, oui, on est distrait, on est dérangé par ce qu'on voit, mais il y a aussi ce qu'on ressent. Hein, les petites pertes de mémoire, problèmes de concentration, des fois on a l'impression qu'on n'est pas toujours apte à prendre la meilleure décision. Eh bien, ça, ce sont vraiment des signes de vieillissement du cerveau. Et on n'est pas tous égales face à ça. Hein. On voit qu'il y a des gens qui vieillissent bien, pas juste physiquement, mais cognitivement, dans leur façon de penser, de raisonner. Et ça, c'est dû au fait que certains de nous ont une meilleure réserve cérébrale, qu'on appelle aussi en recherche la réserve cognitive.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Et ça, cette réserve cognitive-là, ben, elle est en principe, en fait, de façon, je dirais, secondaire ou principale, dépendant d'où on vient, due à nos gènes.
Mm-hmm. Donc, pas tous égaux devant le vieillissement, ça on le comprend bien, mais en même temps, il y a des facteurs peut-être aggravants ou encore de protection.
Exactement. En fait, il y a le facteur héréditaire, mais de plus en plus, dans la recherche en nutrition, on identifie que l'alimentation, ce serait le facteur environnemental numéro un pour bien vieillir cognitivement.
Et là, c'est, bon, je dirais là où votre livre devient de plus en plus pratico-pratique parce que vous énumérez des nutriments, ou du moins des éléments que l'on devrait inclure dans notre assiette. Et ça passe autant des antioxydants par les vitamines et les bons gras. Et on va en parler de ça, Louise Thibault, pour réellement donner des outils aux gens qui nous écoutent. Et ce qu'il y a d'intéressant dans votre livre, c'est que ça s'adresse, même si on parle de vieillissement, ça s'adresse autant des gens de 25 que de 75 ans. Vous parlez beaucoup d'antioxydants. Ils ont un rôle à jouer dans notre bien-être, mieux-être et dans le vieillissement aussi.
Oui, en fait, les antioxydants, ce seront des substances qu'on retrouve naturellement dans nos aliments. Mm-hmm. Et ce que ça fait, les antioxydants, c'est que ça diminue les dommages qui sont causés par l'oxydation. En fait, l'oxydation, ça implique des molécules d'oxygène qui, à un moment donné, deviennent très instables et vont endommager autant les cellules de nos corps que notre corps que les cellules de notre cerveau. Alors, pour limiter les dégâts, on a trouvé dans la recherche qu'une alimentation qui était riche en antioxydants naturels avait un effet réel. Où est-ce qu'on les trouve, ces antioxydants-là? Ben, on les trouve, en fait, dans les aliments qui contiennent certaines vitamines, dont la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E. Les vitamines, en fait, ce sont les vitamines principales. Maintenant, il y a autre chose qui contient des antioxydants dans nos aliments, c'est ce qui leur donne leur couleur.
Et
on comprend que ce sont les pigments.
Mm-hmm.
Alors, plus les aliments sont colorés en bleu, en rouge, en orangé et même en blanc, les aliments de couleur chair contiennent des pigments qui vont avoir des effets antioxydants.
Dans le thé vert aussi, je pense qu'on peut en retrouver.
Dans le thé vert, dans le vin, dans le raisin, même les arachides contiennent des antioxydants. Qui vont avoir des effets très, très positifs.
Et maintenant, Louise, on a parlé d'oxydation, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des aliments qui entraînent davantage ce phénomène-là?
Bien, en fait, oui. Par ricochet, lorsque on se nourrit en fait, d'aliments qui contiennent peu d'antioxydants, mais aussi qu'on a une alimentation trop grasse, en gras saturé, entre autres, ça va favoriser le vieillissement, ça va favoriser non seulement l'oxydation, mais aussi l'inflammation des tissus.
OK. Donc, aliments transformés et, un manque d'antioxydants. Et justement, on va l'aborder, cette question des bons, des mauvais gras. C'est un passage qui, pour moi, était plus flou et je vous explique pourquoi. Parce qu'on parle beaucoup de l'huile de coco en ce moment, à quel point c'est une huile qui serait de qualité. Or, c'est pas nécessairement ce que vous mettez de l'avant, Louise Thibault, et je voulais vous entendre là-dessus, à savoir, est-ce que, on va parler des bons gras en général, mais l'huile de coco plus particulièrement, ce serait dans quelle catégorie?
En fait, l'huile de coco, ça fait partie des gras qui vont favoriser le vieillissement du cerveau.
Ah oui, OK.
Plus l'huile de coco, même si c'est une huile végétale, elle contient beaucoup plus de gras saturés que les autres gras d'origine végétale. Donc, c'est pas parce que c'est végétal que c'est nécessairement bon pour vous.
Voilà.
L'huile de coco, mais aussi l'huile de palme.
Oui. Mm-hmm.
Les huiles qu'on devrait éviter le plus possible. On les achète pas nécessairement en bouteille, ces huiles-là, mais elles se retrouvent dans énormément d'aliments transformés. Pour plusieurs raisons. Une raison, c'est que ça coûte pas très cher. Et la deuxième raison, c'est que comme ce sont des gras qui sont plus saturés que les autres gras végétaux, ils vont donner aux aliments une texture plus ferme à la température de la pièce. Donc ça, pour la texture, c'est bon.
Oui. Donc, huile de palme, huile de coco, peut-être à diminuer ou à complètement éliminer du régime alimentaire, mais il y a des bons gras et il faut en manger, peu importe là, qu'on soit jeune ou un petit peu plus âgé.
Oui, il faut en manger. En fait, notre cerveau est composé là à un peu plus de la moitié de gras. Le gras dans notre cerveau, là, il fait partie de nos cellules. Le gras, c'est une espèce d'isolant dans nos membranes cérébrales qui nous permet de bien penser, de bien raisonner. Alors, on peut pas couper le gras de son alimentation. C'est pas bon pour notre cerveau. Les bons gras, eh bien, les gras qui ont été associés à en fait, un risque accru de développer des démences dans la maladie d'Alzheimer, ce sont les gras saturés. Ça, c'est les gras animaux. Mm-hmm. Et aussi les fameuses huiles de coco et de palme.
Oui.
Les autres gras dont il faut se méfier, c'est les gras trans.
Mm-hmm. Que l'on retrouve dans les croustilles, par exemple.
Dans les croustilles. Oui. En fait, dans tous les aliments qui contiennent des gras qu'on dit hydrogénés. Mm-hmm. Donc, l'hydrogénation, ça permet de garder un gras ou une texture là qui est vraiment le plus solide à température de la pièce. Donc, pour l'industrie, la transformation des aliments, c'est un plus. Mais pour nous, c'est un moins.
Oui. Sinon, les bons gras dans les avocats, les poissons. D'ailleurs, vous parlez beaucoup de tout ce que l'on retrouve dans l'eau, dans la mer, à mettre de l'avant dans l'alimentation. On trouve des bons gras dans le poisson.
Oui, en fait, dans les poissons, mais pas tous, dans les poissons qui sont riches en gras.
Oui.
Les poissons qui sont riches en gras sont riches en bons gras. Et là, on parle de saumon. Que ce soit saumon d'élevage ou saumon sauvage, ça contient les mêmes bons gras, le hareng. Ceux qui aiment les sardines, bien, continuez de les aimer, c'est bon pour vous. La truite arc-en-ciel, le maquereau, qui est un poisson auquel on est peut-être moins habitué.
Oui, c'est vrai. Mm-hmm.
Qui devrait retrouver sa place dans nos assiettes.
Oui. Donc, on n'a pas à couper les bons gras de notre assiette. Il y en a, bon, dans les noix aussi. Il y a un aspect très intéressant dans votre livre aussi, Louise Thibault, et c'est rare que l'on en... Je dis intéressant parce que rare que l'on mette de l'avant ou que l'on parle aussi clairement, aussi profondément de ce point, c'est de diminuer l'apport calorique, ce qui pourrait nous permettre de vivre plus longtemps.
Et oui, en fait, ça, là, c'est une découverte qui a été faite il y a très, très longtemps. Et puis, il y a même plus de environ 80 ans. Depuis tout ce temps-là, on sait ça. On sait que ça fonctionne très bien chez les animaux de laboratoire. Les animaux de laboratoire dont on coupe l'apport calorique d'environ 50% vont vivre beaucoup plus longtemps. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe chez les humains? En fait, il y a eu des études, mais les études sont pas toujours concluantes, dépendant de où elles ont été faites. Une chose ressort cependant, c'est que manger moins, même si on mange 10% de moins de nos calories, 5%, 15%, ça pourrait nous aider non seulement à vivre plus longtemps, mais à vivre mieux.
Oui.
Et ça, ben, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Moi, je ne dis pas qu'il faut couper notre apport calorique de moitié. C'est trop drastique et ça peut avoir des effets néfastes, mais manger un peu moins. Et j'ai des petits trucs dans mon livre pour manger un peu moins que j'aimerais partager avec vous et vos auditeurs.
Oui.
Chris, en fait, un truc pour manger moins, c'est de ne pas sauter de repas.
Oui.
Ça fait drôle à dire, là, mais manger nous permet de manger moins parce que quand on saute un repas, là, ben on va grignoter. Puis on va manger beaucoup plus à l'autre repas. Alors, finalement, au total, on mange plus. Si on a le choix entre des grandes assiettes, des moyennes assiettes, des petites assiettes, ben on devrait aller vers les moyennes et les petites assiettes.
Oui. Mm-hmm.
On a l'impression qu'on mange assez. Petit verre de vin. On va avoir l'impression qu'on boit assez. La distraction. Manger devant son ordinateur, manger en regardant la télé ou même en lisant va nous faire manger plus.
Oui.
Parce qu'on va être moins attentif à nos signaux internes. En fait, j'en parle un peu dans « Manger pour garder son cerveau jeune », mais j'en parle beaucoup plus dans mon livre précédent qui s'appelait « Quand le corps n'en fait qu'à sa tête, découvrez ce qui vous pousse à manger ». Là,
mm-hmm.
j'ai un chapitre sur ça. Donc, si vous êtes intéressé, ben, vous pourriez consulter cet ouvrage-là.
Pour diminuer notre apport calorique, chose
oui.
que l'on peut faire dès que l'on entend cette entrevue, Louise.
Oui, absolument. Écoutez pas l'entrevue en mangeant.
Non.
Pause à la fois. Concentrez-vous. Il y a quelque chose qui est très, très en vogue, c'est la pleine conscience.
Oui. Mm-hmm.
Et quand on dit manger en pleine conscience, moi, j'y crois beaucoup, c'est manger en pensant à ce qu'on fait.
Oui.
Et ce qu'on fait, c'est manger. Quand on pense à plein d'autres choses, eh bien, on n'est pas attentif à nos signaux. Et notre corps, lui, va en redemander. Notre corps et notre cerveau, évidemment.
Une façon de reconnaître de façon plus adéquate les signaux de satiété. Peut-être un ou deux derniers points avant de terminer, Louise, c'est-à-dire les modes de cuisson aussi qui pourraient avoir un impact sur, sur le processus de vieillissement.
En fait, les modes de cuisson auxquels on devrait s'attarder pour garder ces bons antioxydants qu'on a dans nos aliments ainsi que nos gras, c'est cuire le moins possible.
Mm-hmm. Ça, on l'a entendu souvent, mais c'est bien de le rappeler parce qu'on oublie, on a tendance à trop faire cuire le poisson, notamment. Vous en parlez dans le livre. On ne peur que ce ne soit pas assez cuit. Quand il faudrait peut-être le cuire un peu moins qu'on a tendance à le faire?
Oui. En fait, le poisson là, qui est trop cuit, il va être sec.
Oui.
Alors, c'est bien de garder une petite tendreté là, au milieu du filet de poisson. Le filet de poisson peut rester un petit peu translucide au milieu et c'est très bien.
Ah oui, oui.
Mm-hmm. J'aimerais vous parler des légumes. Les légumes, essayez de les cuire entiers le plus possible. Coupez-les en gros morceaux. Prenez pas beaucoup d'eau. Cuisez à la vapeur, au micro-ondes. Pensez aussi que la cuisson des aliments peut avoir un effet positif sur l'absorption de certaines vitamines.
Mm-hmm.
Pensez aussi que manger un peu de gras dans votre assiette va augmenter l'absorption de certains antioxydants naturels comme le lycopène. En fait, le lycopène, c'est le pigment rouge des tomates. Eh bien, ce pigment-là va être absorbé plus en présence d'huile. La même chose pour la vitamine K. On n'en a pas parlé de la vitamine K. C'est une vitamine qui se retrouve dans les légumes verts, feuillus. Eh bien, la vitamine K, c'est très important pour le cerveau qui vieillit bien, qui reste jeune. La vitamine K et les graisses alimentaires, c'est un très bon ménage.
Mm-hmm. Et on en parlera aussi d'alimentation en deuxième partie d'émission, vous savez, parce que André Lavoie me disait un petit peu plus tôt la semaine dernière que l'alimentation, c'est un facteur de prévention très important en ce qui a trait à la dégénérescence maculaire. Et il y a même des débats aussi à savoir si des suppléments vitaminiques pourraient être adéquats pour des personnes à risque. Vous, en général, les suppléments vitaminiques, de vitamines, vous en pensez quoi?
En fait, moi, ce que j'en pense, c'est que, à moins qu'on ait une condition médicale qui requiert de prendre des suppléments, faudrait s'en abstenir.
Ouais. Et retrouver ces vitamines, celles que vous avez mentionnées tout à l'heure dans notre assiette.
J'aimerais ajouter qu'il y a beaucoup de suppléments d'antioxydants qui sont en vente sur le marché présentement. Restez loin de ça.
OK. Louise Thibault, vous êtes l'auteur de « Manger pour garder un cerveau jeune » et également, je le disais tout à l'heure, docteur en nutrition. Je ne l'ai pas sous les yeux. Docteur en nutrition et puis, ah oui, je l'ai, pardon, et professeur agrégé à l'École de diététique et de nutrition humaine de l'Université McGill. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et puis, votre livre a été très agréable à parcourir, Louise Thibault.
Ben, le plaisir a été pour moi.
Au plaisir. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
André Lavoie, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur général de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire. On voulait se donner l'opportunité d'en discuter aujourd'hui de cette maladie oculaire en ce mois de la santé visuelle, oui, mois de mai. André Lavoie, il y a combien de personnes, est-ce qu'on sait, qui sont atteintes de dégénérescence maculaire au Québec?
Actuellement, au Québec, il y a environ un peu plus de 300 000 personnes qui sont atteintes de dégénérescence maculaire.
Oh, c'est beaucoup. Bon, on le sait, c'est la première cause de perte de vision majeure chez les Nord-Américains de 60 ans et plus. Donc, on le comprend, ça touche des personnes un petit peu plus âgées, mais ça peut toucher des personnes plus jeunes aussi.
Oui. En fait, c'est après 50 ans que c'est la principale cause d'une perte de vision. Et effectivement, donc, il y a beaucoup plus de personnes qu'auparavant, à partir de 50 ans, qui malheureusement ont aussi ce problème de vision comme tel. Alors, il faut bien dire qu'après 75 ans, c'est une personne sur trois.
Et c'est beaucoup. Ça se manifeste comment, la dégénérescence maculaire? Je sais que vous, en 2010, vous avez vécu un épisode où ça vous a touché. Peut-être expliquer à nos auditeurs comment ça peut se déclarer.
OK, alors, on va préciser une chose. Il y a deux types de dégénérescence maculaire. Mm-hmm. Il y a donc, pour plus de 85 % des personnes, c'est ce qu'on appelle la forme sèche. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est une lente détérioration de la vision centrale. Mm-hmm. Alors, la vision centrale, c'est ce qu'on appelle la vision fine, ce qui nous permet de lire, d'écrire, si je prends un anglicisme, de focusser, autrement dit, donc sur des détails. Et donc, c'est quand même extrêmement important donc pour notre vision comme telle. Alors, donc, la forme sèche, c'est une lente disparition comme telle. La forme humide, pour 15 % des personnes qui sont atteintes de dégénérescence sèche, alors, c'est un éclatement sanguin au niveau de la rétine. Un peu comme, si l'on veut, un ACV au niveau de la rétine. Et là, à ce moment-là, c'est une perte rapide. C'est la forme la plus sévère. C'est une perte rapide. En 5 minutes, on peut perdre, donc, notre vision centrale. Alors, mais bon, heureusement, c'est seulement que 15 % des personnes environ qui passent à la forme humide, ayant d'abord passé par la forme sèche.
Quel genre de symptômes on peut retrouver à ce moment-là?
Ben, au début, ce qui est problématique souvent, ce qui est un peu capricieux avec cette maladie, c'est que c'est rarement les deux yeux de façon synchronisée. Mm-hmm. Alors, il va avoir un œil, autrement dit, qui va commencer une dégénérescence maculaire, et l'autre œil va compenser avec le cerveau. Et on va mettre ça souvent sur le compte de nos lunettes, ou on ne le voit pas parce qu'on a compensé, ou on met ça sur le compte de nos lunettes et on attend un peu pour aller donc faire vérifier notre vision. Et soudainement, on s'aperçoit que ça devient un peu plus embrouillé au centre, qu'il y a une zone un peu plus sombre. On se rend compte qu'on a besoin de plus de lumière indirecte pour lire qu'auparavant. Il faut approcher si on veut faire quelque chose, si on bricole, ça va nous prendre une lampe de poche pour mieux voir la vis, admettons, ou si on tricote, ça va prendre une lumière plus forte. Et en même temps, paradoxalement, les lumières vives directes dans nos yeux nous font plus mal.
Oui.
Alors, c'est un peu ça, donc, au départ. Alors, mais la forme humide, elle ne trompe pas. Il n'y a plus de ligne droite. Alors, les cordes de porte, les cordes de fenêtre, ça ondule.
Oui.
Et ça, c'est vraiment un symptôme qu'on vient de passer à la forme humide.
Je le disais en introduction, M. Lavoie, il n'y a pas de façon encore de traitement qui peuvent guérir complètement la dégénérescence maculaire, mais il y a des façons de prévenir et vous connaissez plusieurs façons de le faire.
Oui. Bien, c'est-à-dire que, donc, oui, il n'y a pas de traitement comme tel, dans le sens que, il n'y a aucun traitement pour la forme sèche, pour la grande majorité des personnes atteintes de dégénérescence maculaire. Pour la forme humide, il y a des injections qui se donnent depuis environ 10 ans.
Oui.
Et ça ne fait que maintenir, ça ne guérit pas comme tel.
Mm-hmm.
Et de toute façon, dans les deux cas, qu'est-ce qui est important dans le fond de la dégénérescence maculaire? Si on regarde les facteurs de risque, alors bien sûr, il y a l'âge comme premier facteur de risque, parce que c'est vraiment lié effectivement à l'âge. Ça s'appelle d'ailleurs en langage médical. Dégénérescence maculaire liée à l'âge, bien que maintenant, il y a des gens de plus en plus jeunes. On va peut-être corriger ça dans le vocabulaire. Mais, donc, ce qui est important, c'est, à part l'âge, il y a la cigarette.
Mm-hmm.
Et c'est 6 fois plus de risques. Et il faut dire que aussi il y a un facteur malheureusement héréditaire. Et s'il y a un facteur héréditaire, alors si dans notre famille directe, hein, nos pères, grand-mère, grand-père, dans la famille directe, il y a... quelqu'un qui a la dégénérescence maculaire, il y a beaucoup de chances qu'effectivement, qu'il y ait ce gène-là comme tel.
Mm-hmm.
Et le gène fait en sorte qu'il va amplifier tous les autres facteurs de risque.
Mm-hmm.
Alors donc, si on a un gène, ça veut dire donc qu'on risque de l'avoir plus jeune que d'autres.
Mm-hmm.
Si on a fumé, ah ben là, on a encore beaucoup plus de risques qu'un fumeur qui n'avait pas un gène comme tel. Si on n'a pas fait attention à ses yeux, au niveau, par exemple, des ultraviolets comme tels, on les expose pas à la lumière vive, alors le gène va faire en sorte qu'effectivement, on a donc, c'est amplifié comme facteur. La mauvaise alimentation. En fait, ce qui est important de comprendre aussi à la dégénérescence maculaire, hein, c'est donc la rétine, c'est derrière l'œil. Et ce sont des photorécepteurs, c'est le laboratoire qui développe l'image envoyée par l'œil, et ça fonctionne avec un apport sanguin.
Oui.
C'est exactement la même problématique pour les problèmes cardiaques.
Mm-hmm.
Autrement dit, donc, ce qui arrive, ça se nourrit donc avec du sang pour développer l'image et donc par des nutriments. Mais naturellement, si le sang charrie des impuretés, donc du gras, hein, du cholestérol et tout, c'est exactement comme pour le cœur. C'est-à-dire que les tissus donc du cœur ou de la rétine vont s'inflammer parce qu'effectivement, il y a des dépôts de toutes sortes et l'inflammation mène finalement à une dégénérescence
oui.
hein, des tissus. Donc et la macula, c'est la partie centrale de la rétine qui permet donc la vision centrale.
André Lavoie, on invitera nos auditeurs à visiter votre site aqdm.org. Ils pourront d'ailleurs faire la grille de Amsler. C'est un test pour déterminer les facteurs de risque. J'aurais aimé vous entendre sur les revendications de votre association. On n'a plus de temps. Il reste 20 secondes. Je vous remercie. On glissera le lien vers l'article du Devoir, directeur général de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire. Merci beaucoup, André Lavoie.
De rien, merci.
Au revoir. Merci, Jean-Sébastien Laliberté. C'est Marianne Paquette au micro. Rendez-vous demain. Portez-vous bien. Bye-bye.